The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien avec un data leader en vidéo et podcast.
Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. Nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Perret. Xavier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Xavier, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, écoute Caroline, je suis le responsable du cloud Azure chez Microsoft France, donc qui comprend en fait dans ce qui est cloud infrastructure, data évidemment, mais aussi intelligence artificielle.
Parfait, on va justement parler d'intelligence artificielle et d'IA générative aujourd'hui. Alors comment t'en es arrivé à travailler sur ce sujet ? C'est quoi ton historique avec ça ?
En fait, ça fait des années que... Moi, je suis un ingénieur, donc en fait, ça fait des années que je développe. C'est une des raisons dans laquelle, d'ailleurs, j'ai rejoint Microsoft, c'est pour l'IA. Il y a plein de formes d'IA, hein. Ça fait 60 ans qu'on fait de l'IA. C'est pas 60 ans que j'en fais, hein, en l'occurrence, hein, derrière, mais voilà. Et depuis des années, on voit apparaître des formes d'IA génératives. Alors, ça s'appelait des GAN avant, Generative Adversarial Network, qui commençaient à générer du contenu, générer des images. Voilà, c'est un des intérêts que j'ai depuis très longtemps, puisqu'on va, je pense, parler de films de cinéma, mais c'est aussi un intérêt, l'image, voilà, la vidéo derrière. Et donc, ça fait déjà presque 3 ans que j'ai vu, en fait, dans le cadre de mes activités d'Azure et du cloud Azure, l'apparition du partenariat de Microsoft et d'OpenAI, en l'occurrence, j'ai commencé à jouer avec, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un produit voilà, qu'on distribue. On distribue des modèles de large language derrière pour les entreprises. Donc voilà, tout simplement, voilà, on est dans une phase opérationnelle de ce que j'ai pu voir au niveau recherche il y a déjà quelques années.
Alors justement, tu l'as introduit en parlant de cinéma. Tu as beaucoup travaillé sur les imaginaires que convoquent les nouvelles technologies, en particulier sur leur incarnation dans les films, au cinéma. Alors justement, ces IA génératives, quel imaginaire ça convoque d'après toi et comment cet imaginaire-là, ça se confronte à celui du monde de l'entreprise ?
Ouais, alors effectivement, je suis très cinéphile et cinéphage. Ce qui est intéressant dans les films de cinéma, moi, ce que je raconte souvent, c'est qu'en fait, ils sont souvent empreints de technologies de recherche de l'époque. Et on peut retracer presque l'histoire de l'IA avec des films de cinéma. Et l'IA générative, c'est qu'une sous-partie de l'IA. On pense souvent, quand on parle d'IA, à 2001 Odyssée de l'espace. Il faut savoir que c'est un moment où commence à apparaître le machine learning. On est dans les années 60, 68 exactement, à Stanley Kubrick. Derrière, Matrix, finalement, c'est les données. Et petit à petit, on va voir des nouveaux films apparaître qui sont, par exemple, Her, on parlera de mes films préférés, qui est un peu ce aha moment qu'on a vécu avec ChatGPT derrière. La difficulté de tous ces films, c'est qu'ils vont convaincre un imaginaire très robotique, robot. On va parler de Terminator, on va voir une IA qui est un robot. Donc en fait, on est presque plus perturbé quand on parle d'IA en pensant à un robot, alors qu'en fait, c'est un modèle probabilistique, mathématique. Donc quand on sait derrière ce qu'il y a derrière une vraie IA, en particulier l'IA générative, c'est un modèle qui prédit le prochain mot. Donc on ne peut pas tellement parler d'une intelligence artificielle générique qui voilà, supplanterait tous les hommes et toute leur intelligence derrière. Alors moi, je pense que ça peut être un frein, puisqu'en fait, d'abord, c'est souvent des films qui sont dystopiques. Il y a peu de films utopiques, c'est moins intéressant que voilà, des films où il y a plein de guerres contre les robots derrière. Et au contraire, je pense que c'est plutôt un frein, puisqu'on va imaginer une IA qui saurait tout faire, qui pourrait nous remplacer, alors qu'en l'occurrence, l'IA générative, elle est plutôt positionnée pour nous faire gagner du temps, pour qu'on puisse passer, on va venir sur la notion de copilote, mais du temps à ce qui compte, c'est-à-dire interagir, mais gagner du temps sur ce qui peuvent être des tâches fastidieuses, derrière, trier mes emails, par exemple, derrière. Et donc, quand on pense à l'IA, si on pense à du Terminator, à je sais pas, Robocop, on peut penser à plein de choses derrière, même HAL, donc le robot de l'industrie de l'espace, on va l'associer à quelque chose qui est négatif derrière, alors qu'en fait, l'IA, ça fait déjà des années que l'IA est déjà là pour nous faire gagner du temps. Et donc, c'est plutôt un frein dans un modèle de représentation imaginaire qu'on peut avoir derrière. Il y a très peu de films qui puissent nous montrer en fait, une IA qui va nous aider au jour le jour.
Est-ce que tu as en tête un film qui aurait justement une vision un peu plus positive de l'IA ?
Évidemment. En fait, il y en a deux. Si on regarde bien, il y a Her dont j'ai parlé, donc film de Spike Jonze de 2010, qui est intéressant puisque c'est ce moment de conversation empathique, voilà, émotionnelle, entre quelqu'un qui va tomber amoureux, en l'occurrence, d'un operating system, d'un système d'exploitation. Donc là, on est plutôt dans la sensation. C'est un film très audio, d'ailleurs, dans l'esprit. Mais j'en ai un autre que j'aime bien, qui d'ailleurs rappelle beaucoup des évolutions technologiques qui sont en train d'arriver autour de la notion de copilote. C'est dans le film Interstellar, il y a un robot, il y en a même deux, hein, qui s'appelle Tar et Tars derrière. Et d'ailleurs, ces robots ne ressemblent pas à des personnes, hein, c'est une espèce de bras comme ça, qui vont sauver la vie de l'actrice en question, enfin voilà, d'une des protagonistes derrière. Donc en fait, il ne pourrait pas la sauver s'il avait des mains où il ressemblerait à un humain. Et surtout, il y a une scène assez incroyable. Donc, on est, ce film, il est vers 2010, où le Matthew McConaughey, qui joue le rôle, dit, bah voilà, il faut qu'on prenne une décision. Et le robot dit, bah voilà la décision qu'il faut prendre. Et Matthew McConaughey dit, mais pourquoi cette décision-là? Et le robot va lui expliquer la décision. Et donc, c'est un des premiers robots où il y a, on voit qu'on a une difficulté associée, qui va finalement expliquer pourquoi il arrive à cette conclusion et proposer des solutions. Donc, on est loin d'une image, voilà, d'une IA qui va, sur laquelle on va combattre contre lui derrière. Et donc, ça reflète, en fait, dans ce film-là, pas mal d'évolutions technologiques sur l'IA, en fait, autour voilà, de la responsabilité, de la comptabilité, en fait, de la responsabilité autour de l'IA au sens général du terme.
Alors, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé dans le monde réel, hein, pas dans le cinéma, à ce stade de l'IA où l'IA peut faire des recommandations pertinentes et nous les expliquer?
Alors, je pense qu'on est en train d'arriver à ce moment-là. On va venir pourquoi, ce qui s'est passé finalement en 2023, et pourquoi on en arrive là. Mais on arrive à un moment où on a une capacité d'une IA générative à finalement appréhender le modèle de langage. On a une confusion, c'est qu'on pense que c'est un modèle de connaissance. Ça n'est pas un modèle de connaissance. C'est un modèle de langage, donc il a une capacité à comprendre, expliquer, détailler, résumer, traduire finalement quelque chose d'autre, un texte en une image, un texte en du code. Et donc effectivement, on va pouvoir interagir avec ce modèle. Donc tout le sujet va être finalement, on interagit avec ce modèle qui a une compréhension du langage, mais sur la base de quelles données? Ça, c'est un vrai bon sujet ensuite en entreprise.
Alors justement, des cas d'usage en entreprise, lesquels tu as eu l'occasion d'observer ou lesquels te semblent les plus prometteurs?
Alors, si on regarde l'IA générative, enfin, sa faculté, il y a une vraie différence par rapport à la transformation digitale d'avant. C'est que, d'abord, le premier point, c'est que ce n'est plus un sujet technologique. C'est-à-dire que ce modèle existe, il est apparu, il est pré-entraîné. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser. Et souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que si l'entreprise ne commence pas à tester avec, son concurrent va le faire. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas de suite d'adoption, comparativement à la transformation digitale d'avant, où il y avait des applications, il fallait le bon smartphone, il fallait peut-être éduquer les gens, utiliser l'interface digitale. Là, tout le monde a plutôt envie, et puis on le voit dans l'exemple de ChatGPT. Donc finalement, le sujet dans les entreprises, ça va être comment je crée une expérience qui est nourrie avec la data de l'entreprise pour faire la bonne expérience. Là où l'IA générative fait sens, et elle fait sens dans un moment où je suis en interaction, par exemple en interaction avec un logiciel, donc finalement, il va traduire ce que je cherche en le langage du logiciel. Par exemple, Excel, PowerPoint, donc là, on va trouver tout l'univers des solutions Microsoft aussi, hein, derrière. Quand je suis dans un moment où j'ai besoin d'accès à la donnée différemment, en mode conversation, donc tout ce qui est knowledge management, par exemple, là, je vais retrouver des données de façon différente parce que il va me faire des ponts entre les données plutôt que d'aller chercher le document auquel j'ai pensé derrière. Ou des moments où je vais avoir une conversation et je peux, pas l'automatiser, mais en tout cas, résumer des choses, créer du nouveau contenu, par exemple, call center. Voilà, ou directement relation client digital, on l'a vu voilà, sur les entreprises du retail, par exemple comme Carrefour, de créer une expérience de bot sur un univers alimentaire, par exemple, plutôt que simplement je sais ce que je veux faire, donc j'ai mon panier derrière. Donc l'IA générative va être intéressante dans cette compréhension du langage, dans cette interaction. Voilà. Elle ne va pas faire de l'antifraude, elle ne va pas faire, c'est un autre type d'IA, d'intelligence artificielle finalement, mais l'IA générative va être vraiment douée à un moment où il y a une conversation. Moi, logiciel, ou moi, avec quelqu'un d'autre.
Donc, on est effectivement assez loin de la guerre des robots.
Exactement.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? On a quand même l'impression qu'on a atteint certains points de non-retour. Est-ce que tu dirais ça?
Oui, sans être une révolution, puisqu'en fait, 2023, c'est à un moment donné, cette technologie, elle est accessible, comme je disais. Mais c'est le résultat d'un certain nombre d'années avant. D'abord, au niveau des travaux de recherche sur des modèles, dont ce qui s'appelle les modèles transformeurs de compréhension du langage ou de la phrase, la modélisation mathématique. Le fait que ça a été entraîné, il faut rappeler que Microsoft et OpenAI, ça fait plus de 4 ans qu'en fait, ça travaille pour trouver l'infrastructure pour modéliser, qui fait que est arrivé en 2023 tout d'un coup un objet, ChatGPT, accessible et qui a des capacités. Et la vraie différence par rapport à avant, c'est qu'avant, on avait toujours des modèles qui étaient entraînés pour des tâches spécifiques. Par exemple, j'ai un modèle pour la traduction. J'ai un modèle pour analyser le sentiment. Et là, ce modèle-là, en 2023, il s'est retrouvé plus performant. Il est générique, il est pré-entraîné. C'est le P de GPT, hein, finalement. Il est pré-entraîné, il est plus performant que ces modèles d'avant qui étaient sur des tâches spécifiques. Et donc, c'est ça qui a fait que, ah tiens, là, on a atteint, alors peut-être pas un point de non-retour, mais en tout cas un point. Et puis, le deuxième élément qui s'est passé en 2023, c'est, mais en fait, ce modèle-là, il est intéressant aussi pour des tâches sur lesquelles on ne l'a pas entraîné pour ça. Par exemple, détecter l'ironie. on ne lui a pas dit « détecte l'ironie », on ne lui a pas appris. Il se trouve que dans l'environnement d'ensemble sur lequel il a appris, ben, il a cette capacité-là. Et donc là, les gens ont confondu en disant oh, « c'est une intelligence intelligente », on va dire, voilà. Non, c'est qu'en fait, il se révèle bon à des tâches sur lesquelles on ne l'a pas entraîné. Et du coup, mais comment il a fait ? C'est là que ça a peut-être questionné au début. Et en fait, on voit qu'on trouve des choses qui commencent à être intéressantes sur des tâches qu'il est capable de faire, ces modèles-là, encore une fois, en le mettant avec les bonnes données derrière.
Ok. Néanmoins, il reste des tâches pour lesquelles il ne va pas être bon du tout et aussi pas mal de critiques. On dit que ces intelligences artificielles génératives vont remplacer certains métiers, qu'elles peuvent poser des problèmes de droit d'auteur, qu'elles ont des hallucinations. D'après toi, est-ce que ça peut faire un peu retomber la vague ou est-ce que ça peut être une limite à l'adoption de cette technologie ?
Alors moi, je ne crois pas. Je vais dire pourquoi. C'est que d'abord, la conversation, le mode conversationnel, c'est inhérent à l'humain. Donc là, on a touché quelque chose qui est au cœur. On le voit dans le film Heure, finalement. On a touché à l'empathie. On a touché à quelque chose qui est de la nature de l'interaction qu'on a tous les jours. En fait, les gens ont plutôt envie de ça. Donc, on est sur une technologie qui, de facto, est accessible, mais sur laquelle on a envie. Et donc, je ne crois pas que ça va faire retomber cette envie-là d'utiliser, finalement, une interaction de ce type-là. Cette interaction, elle serait limitée, comme on l'a connue, dans des bots d'il y a 10 ans, 15 ans. Moi-même, j'en ai développé, où du coup, on est guidé dans un parcours, voilà, parce que finalement, on voit très bien qu'indirectement, c'est ce parcours-là que finalement, le commerçant essaie de me faire. Là, on n'a pas envie d'y retourner. Là, on a envie d'y retourner. C'est ça la différence derrière. En revanche, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, tu l'as dit, il y a des tâches sur lesquelles ces modèles ne sont pas encore très bons. Par exemple, ce qui s'appelle chain of thought. Donc, chain of thought, c'est la capacité de raisonnement. C'est-à-dire, je vais lui demander de raisonner et de faire un calcul arithmétique sur une phrase, voilà, sur j'ai des pommes, je vais trouve-moi le nombre de pommes parce qu'il en a enlevé, etc. Et il peut là halluciner. Et donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour l'aider, en fait, à finalement faire ce qu'on fait nous mentalement dans notre cerveau, c'est-à-dire un mode de raisonnement chaîné, d'où le chain of thought derrière. Donc, on voit qu'il a des capacités sur des tâches où il est moins bon, mais il y a déjà des choses qui arrivent pour l'aider à le prompter différemment derrière. Deuxième élément, tu l'as dit, oui, ces modèles génératifs se sont nourris d'un certain nombre de documents, voilà, sur le web et derrière. Bon, apparaissent d'autres modèles pour lesquels ils vont s'entraîner sur des documents qui sont complètement clairs d'un point de vue IP, donc intellectual property derrière. Il y a aussi des choses, on peut se poser la question en disant, les gens commencent à utiliser ces modèles-là, mais finalement, comment je peux faire pour qu'ils oublient certains documents qui étaient protégés ? Bon, on va trouver aussi des choses qui sont un peu plus que l'état de recherche pour dire, c'est paradoxal, je vais dire, mais je vais lui faire oublier des parties de ce qu'il a appris. Et donc là, il y a un papier, par exemple, qui vient de sortir en disant comment ce modèle-là, je change un peu ses paramètres pour qu'il oublie Harry Potter. Voilà. Donc, l'histoire, elle n'est pas finie. Et puis, le troisième point sur ces modèles-là, c'est que oui, il peut halluciner. Et là, par contre, il y a déjà pas mal de solutions, puisque comme je disais, ce n'est pas un modèle de connaissance, c'est un modèle de langage. Et donc, pour faire les bonnes expériences, il faut ce qu'on appelle grounding dans le mur d'état, c'est-à-dire lui faire appeler des données qui sont celles vérifiées. Et là, il est très, très bon parce qu'il va comprendre en se basant uniquement sur ces données-là. Donc, c'est un sujet de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est moins sur le quoi, on va être sur le comment. C'est-à-dire les bonnes expériences pour justement répondre aux vrais besoins. C'est-à-dire, je veux un besoin où il dit vraiment les choses vraies. Bon, on va le baser sur des documents. À l'inverse, l'hallucination, c'est une feature, hein, c'est pas un bug. Être créatif, j'ai des use cases en marketing, par exemple, où j'ai envie qu'il me propose des choses un peu innovantes, il me propose un titre accrocheur, il me propose une description différente, là, je suis plutôt content qu'il hallucine finalement, en tout cas qu'il dévie de ce que moi-même j'aurais fait.
Là, je suis content. Par contre, si je suis dans le marketing et que l'IA générative finit par me remplacer, je vais être moins content.
Alors, je n'ai pas répondu à cette question-là, effectivement. J'ai une conviction aussi qui est que cette IA générative, elle est là pour nous faire gagner du temps et de l'énergie. C'est-à-dire ce qu'on manque le plus dans le monde, enfin dans ma journée en tout cas, moi c'est le temps. L'énergie n'en est pas mal, mais je m'épuise dans la journée. Donc il y a des tâches que je n'ai pas envie de faire. En tout cas, si quelque chose pouvait m'aider à le faire, je serais bien content. Il y a une espèce de paradoxe aujourd'hui qui est nourri par les fantasmes des films de cinéma, enfin voilà, comme on en a parlé, qui est qu'à la fois, donc il y a une grosse étude de Microsoft qui s'appelle le Work Trend Index, qui raconte que dans cette étude qui est parue il y a quelques mois, en fait, la moitié des gens ont peur que l'IA prenne leur boulot, mais trois quarts des gens, alors forcément, il y en a qui sont dans l'autre partie, hein, trois quarts des gens seraient très contents si l'IA lui simplifiait certaines tâches ou les faisait à sa place. Pour justement passer son temps à quelque chose de plus productif, ou sa famille, enfin des tâches qui sont plus épanouissantes. Donc, on voit bien que ce paradoxe-là, on ne l'a pas totalement réglé. Ce qui est sûr, c'est que ça va dévier certains métiers vers là où l'humain est bon, c'est-à-dire en tout cas la créativité, la bonne prise de décision, la sociabilité, le travail en groupe. Voilà, cet aspect-là est moins peut-être à trier ses mails, qui est peut-être moins à valeur derrière dans mon quotidien.
Ça veut dire que, est-ce que ça va pousser des nouvelles façons de s'organiser entre équipes ou dans une entreprise ou des nouvelles compétences, d'après toi ?
Oui, je pense on va avoir, alors sans être des nouvelles compétences, moi je parle beaucoup de littératie. C'est-à-dire, parce qu'on va avoir compétences pour certification, oui, il y a des métiers toujours au niveau technique, hein, de data engineer, ingénieur data, data scientist. Alors, on va retrouver ces éléments pour construire ces éléments-là. À l'inverse, sur l'utilisateur, là, il y a une forme de littératie de comprendre derrière ce que ça fait pour justement pas lui faire confiance quelque part, lui dire propose-moi une manière de prompter différente pour avoir la réponse attendue. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil magique où je lui dis crée-moi un dessin, il va me créer un dessin. Mais si je n'ai pas dit ce que j'avais en tête, qui est crée-moi un dessin d'une personne qui fait ça et ça dans le style de bidule machin, etc., il ne va pas deviner à ma place. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, on va expliciter non pas le résultat de la recherche, ce que j'ai l'habitude de faire, quelque part, mais ce que j'ai en tête, cherche-moi quelque chose comme ça, mais par contre, il faut que je lui décrive. Et ça, on a peut-être moins l'habitude parce qu'on a l'impression qu'il est magique et en fait, je vais juste lui dire, fais-moi quelque chose. En fait, non, il n'est pas magique de cette façon-là. Et donc, cette compétence-là d'appropriation des outils, ce n'est pas un sujet d'adoption, comme je le disais, c'est un sujet de littératie au sens de bien savoir utiliser cette capacité-là et, comme je disais aussi préalablement, de ne pas lui faire confiance forcément, c'est-à-dire d'être toujours vigilant que ce qu'il va me proposer, il me le propose et que c'est moi qui dois le valider.
Il y a un regard critique à garder. Il y a peut-être aussi des garde-fous à mettre en place parce qu'au-delà de la vigilance que tout à chacun peut avoir, du point de vue de l'organisation, est-ce qu'on peut mettre en place des outils, des règles, des normes qui vont éviter des impairs avec les IA génératives ?
Oui, alors c'est le framework de responsabilité AI qui était déjà vrai avant, en fait, mais qui est d'autant plus vrai sur ce sujet-là, je pense. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs principes importants sur l'IA responsable. Hein. Évidemment, il y a le accountability, qui est celui qui développe, il doit être aussi une forme de responsabilité, l'inclusion, la sécurité des données, un certain nombre d'éléments autour de ça. Et la réponse, oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des outils, donc c'est des outils qui doivent permettre de cadrer cette expérience-là. Par exemple, dans le cas du retailer Carrefour, mais dans d'autres cas, on va analyser la toxicité ou la sévérité des requêtes et des rejets de requêtes pour pouvoir dire non, je n'autorise pas. Parce qu'en fait, un message peut être ambigu, c'est peut-être le même mot, mais associé à un autre, en fait, ça sort du cadre. Donc, il y a d'autres outils AI qui sont apparus. C'est l'outil qu'utilise Bing pour la petite histoire at scale, qui permet d'éviter d'avoir des choses qui seraient de l'ordre du toxique. Donc, il y a des outils. Et puis ensuite, il y a processus. Je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui que n'importe quelle entreprise ait un cadre de responsabilité AI. C'est encore plus vrai parce que ça touche tous ses clients et tous ses employés, finalement. Là, on est dans un outil qui va être quand même adopté et demandé à des niveaux différents, peut-être. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir un cadre de responsabilité extrêmement clair. Derrière, celui de Microsoft, il y a 15 ans, pour une petite histoire, il est d'autant plus important aujourd'hui avec l'adoption de ces outils.
Alors justement, chez Microsoft, vous utilisez ces IA en interne, mais vous accompagnez aussi les entreprises dans cette transformation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous faites ça ?
Oui, alors d'abord, nous, on s'appuie toujours depuis historiquement à un réseau de partenaires, comme Artefact, tout simplement. Donc c'est eux qui vont apporter la valeur, pour être clair. Il y a toujours un sujet, évidemment, de délivrée technique, et puis un sujet d'accompagnement. Et nous, on est une plateforme technologique. Voilà. Microsoft, Satya Nadella, le président de Microsoft, dit toujours que nous, on ne cherche pas à être cool, on cherche à rendre les autres cool. Donc, j'aime bien cette idée qui est, en fait, on va encore plus sur le cloud, finalement, avoir un réseau de partenaires qui eux-mêmes vont travailler ces cas d'école, ces cas métiers. Nous, on n'est pas capable de savoir tous les cas métiers derrière de toute la Terre, du bon impact. Et c'est là où, en fait, on va travailler avec un réseau de partenaires qui a à la fois la compétence technologique pour bien le faire. Je le disais, il y a un sujet d'outillage quand même important, un sujet de littératie ou de compétences derrière, et puis un sujet du comment l'adopter correctement dans l'entreprise. Là, on est complètement dans, dans une phase-là, la différence, c'est que ça concerne tout le monde quelque part. Alors, à des niveaux peut-être différents, mais ça concerne quand même tous les métiers d'entreprise.
En fait, tu nous as parlé de votre réseau de partenaires. Peut-être d'autres types de partenariats avec des startups. Comment vous êtes impliqué dans ces relations grands groupes startups sur ce sujet de l'IA?
Alors, ça fait effectivement un petit moment qu'évidemment, on a un incubateur, à Station F en particulier. On l'a toujours sur l'environnement derrière. On vient de lancer justement un incubateur sur un Gen AI Factory, en fait, pour accompagner des startups et justement des startups qui ont ce sujet métier. C'est-à-dire plutôt pour aider à scaler des startups qui vont accompagner des entreprises sur l'impact sur le métier des RH, l'impact sur le métier du legal. Voilà, quel outil ça veut dire pour construire des solutions qui sont évidemment dans les valeurs dont on a parlé de responsabilité, mais aussi qui vont avoir vraiment cette problématique de c'est quoi le copilote du RH demain? C'est quoi le copilote du legal? C'est quoi le copilote du call center derrière? Donc c'est ça effectivement qu'on travaille. On vient de lancer cet accélérateur. Voilà, mais enfin, cet accélérateur va comprendre une dizaine de startups. Et puis, on essaye aussi de les mettre en relation avec les grands groupes derrière. Ça fait partie de notre métier d'écosystème derrière, de les accompagner et de les développer.
Alors, toi, tu es très bien placé pour voir le degré d'adoption de ces technologies, que ce soit chez Microsoft ou avec vos partenaires. On en est où?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que déjà chez Microsoft, évidemment, on utilise nos propres technologies. On a commencé finalement par la partie développeur, puisqu'on est de l'engineering. Donc, c'est vrai que GitHub Copilot, qui est le produit développeur, qui permet de transformer du texte en code, donc d'aider, de documenter de code. Ce produit, d'ailleurs, il a été lancé il y a un an et demi, avant même la vague GPT, avec les mêmes technologies derrière. Et donc là, on a une vague d'adoption extrêmement forte, surtout, évidemment, tous nos développeurs vont utiliser. Donc, c'est souvent par là aussi que, j'allais dire, la sphère IT d'une entreprise commence à se poser des questions, parce qu'elle a un legacy IT, un legacy data, parce que finalement, c'est un sujet un peu technique, les modèles de langage. Et du coup, c'est peut-être le CTO qui commence à comprendre ça, à se dire, y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer le quotidien des développeurs derrière. Ensuite, nous, on est gros utilisateurs, on passe sur la partie finance de tableau de bord, donc avec un produit qui s'appelle Power BI. Et là, c'est une manière d'interagir avec le logiciel. Et là, nous, on a vu l'intérêt de créer facilement son tableau de bord, de résumer son tableau de bord. Donc, ça, c'est Power BI Copilot qui est en train d'arriver, en fait, sur le marché. Et là, on voit aussi la faculté de rendre accessible un outil où il fallait peut-être être spécialisé un peu du logiciel qui s'appelle DAX pour la petite histoire. Voilà, donc on voit que c'est souvent l'autre patte qui est la partie peut-être finance, peut-être utilisateur du tableau de bord en disant « Ah bah oui, si j'avais ça, je créerais plus vite mon tableau de bord, je pourrais le changer alors qu'avant, il faut que je change. » Voilà. La troisième partie, c'est le côté collaboratif. On voit beaucoup qui est en train d'arriver vraiment, en train de s'étendre puisque l'offre maintenant, voilà, le produit vraiment s'étend maintenant aujourd'hui, c'est Microsoft 365 Copilot. Là, qui est la partie collaborative, Excel, PowerPoint, comment je vais créer un PowerPoint à partir d'un document Word, comment je vais pouvoir résumer un gros tableau Excel pour qu'il me donne les points critiques, comment je vais créer une fonction macro Excel que personne ne sait comment faire aujourd'hui, en langage naturel. Donc, le tri des mails, le récap des meetings, souvent c'est ça aussi. Tiens, propose-moi un compte-rendu de réunion sur Teams. Voilà, donc on va voir que ça, c'est souvent par là qu'on voit dans les entreprises. Et puis, la dernière patte que nous, on voit beaucoup, c'est… Donc là, on est plutôt sur les copilotes que propose Microsoft. C'est les copilotes qu'on va construire nous-mêmes parce qu'on a des métiers spécifiques. Par exemple, on a un gros métier qui est le support. Voilà, call center, support. Eh ben, on a déployé une interface qui va récolter plein de signaux d'incidentologie technique et intégrer ça dans l'interface, mais en mode langage naturel avec le technicien du support. Ce qui fait que… Il l'a disponible et c'est exactement, mais en langage naturel, ce qui est beaucoup plus compréhensible plutôt que des boutons rouge, vert derrière. S'il a un client qui l'appelle pour des problématiques de support, il va avoir une aide, finalement un copilote pour l'assister à la fonction support. Donc là, on a construit nous-mêmes notre propre fonction, ce que n'importe quelle entreprise qui a un call center pourrait le faire. Donc c'est ça qui est intéressant dans le déroulé où finalement la partie GitHub Copilot est un no-brainer presque là maintenant. Et puis on voit petit à petit d'autres fonctions métiers arriver. L'appropriation, du coup, elle est différente selon les industries. Parce qu'il y a des industries qui, nativement, sont beaucoup plus impactées d'autres. Par exemple, l'industrie du retail, qui est très call center ou relations clients, va se poser beaucoup de questions dessus. Le secteur assurantiel aussi, qui est finalement un secteur qui brasse beaucoup de conversations au sens large, derrière, va être complètement réinventé. Le secteur bancaire, pourquoi? Parce qu'on est sur des produits complexes. Donc, produit complexe veut dire j'ai peut-être pas tous les conseillers clients pour être capable d'interagir avec la documentation de produits complexes. Donc, si j'ai un outil, on va dire un bot interne pour aider le conseiller client, ça va pouvoir l'aider à aller plus vite dans sa réponse au client. le secteur des produits complexes de type luxe. Voilà. C'est aussi parce qu'un produit de luxe a des attributs complexes, parfums, bijoux, et peut-être que mon conseiller client, alors, je ne sais pas si on l'appelle conseiller client, vendeuse, voilà, assistée, n'a pas toute la finesse, et donc peut-être un outil va l'aider à, avec les mots peut-être du client, à l'orienter sur exactement ce que la personne veut, sans avoir à se référer à presque la notice technique du bijou ou du parfum. Voilà. Donc tous ces univers-là, de produits un peu complexes, voilà, c'est ceux qui d'abord vont être transformés. Et ce que je disais avant, tous les produits logiciels, hein, j'ai parlé des produits Microsoft logiciels finalement nous-mêmes, hein, on est transformés par ça, ben voilà, tous ceux qui ont un produit logiciel de RH, de comptabilité, etc., vont être transformés. C'est ceux-là qu'on voit aujourd'hui concrètement s'emparer du sujet, se dire « Ah bah oui, aujourd'hui, je peux inventer des expériences conversationnelles complètement différentes, améliorer la productivité aussi, c'est vrai, mais aussi recentrer les gens dans quelque chose qui a plus de valeur, par exemple, le contact client, tout simplement. »
Comment tu vois le secteur évoluer dans les prochaines années?
Alors, c'est difficile de faire une prédiction là-dessus. C'est comme toujours, je pense qu'on surévalue l'effet court terme et on sous-évalue l'effet moyen terme. Donc, ce qu'on vient de se raconter là, je pense que l'impact sur les gens va être progressif, mais va être massif. Et donc, je pense que c'est le temps de la progression selon la nature des métiers. Il y a des métiers qui sont plus de l'ordre du knowledge management, qui vont être impactés beaucoup plus rapidement que peut-être d'autres. Il y a des industries, comme je disais, qui sont à réinventer maintenant, d'autres qui ont plus le temps quelque part derrière. Donc, je pense que cette partie de phase d'adoption dans le cas d'entreprise, voilà, je pense qu'il va se faire progressivement ou pas, mais il est parti. Ça, c'est sûr, hein, derrière. Ce qui est intéressant, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'on va voir apparaître d'autres choses qui, moi, me passionnent. C'est des développements pour spécialiser les modèles. C'est-à-dire, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, ces modèles ne sont pas bons à certaines tâches. Et donc, on voit apparaître, donc ça s'appelle AutoGen, par exemple, AutoGPT, pour ceux qui suivent ça, qui est, je vais spécialiser des bots internes, spécialisés sur certaines tâches, et puis, je vais les faire, je vais moi interagir avec le bot principal, voilà, et puis il va discuter avec les autres pour faire cette tâche-là. Mais comme les autres sont spécialisés sur les tâches, il va être beaucoup plus efficace. Et ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, ils vont converser, en fait, quelque part en arrière, pour faire la tâche que je souhaite, qui est peut-être une tâche extrêmement précise. Et donc, on voit commencer à apparaître finalement l'impact de l'IA générative potentielle sur des métiers où moi, je ne le voyais pas, pour être franc, la supply chain. Parce que c'est une série de tâches et en fait, on va voir apparaître des tâches intéressantes où je pourrais améliorer la supply chain derrière sur certaines fonctions de procurement, de supply, etc. via des bots spécialisés, le bot procurement, le bot supply, etc. derrière. Et donc, je pense que même des métiers on n'imaginait pas derrière être réinventés par la générative, je pense que dans les 3-5 ans, on verra de plus en plus de cas d'école de ce type-là. Donc, un autre exemple qu'on est en train de développer, hein, à titre d'exemple, c'est dans l'environnement. Donc, il y a une directive qui s'appelle la CSRD qui impose qu'on explique son scope 3. Donc, le scope 3, c'est celui l'impact carbone de mes fournisseurs. Bon, on a des groupes qui ont 10 000 fournisseurs, tout petits, parce que vous avez par exemple un groupe de luxe et donc plein de petits fournisseurs. Et donc, ce groupe demande à ces 10 000 fournisseurs, dites-moi, remplissez-moi ça, ça, ça et ça. Bon. Un fournisseur, pour faire très, je suis savoyard, donc je peux le dire, le savoyard va peut-être pas répondre comme l'alsacien qui va pas répondre comme le breton, voilà, par exemple. Bon, sans dire ça, mais la nature des métiers derrière. Et donc, du coup, l'IA générative va être utilisée pour unifier, c'est un peu comme dans les conventions de code, documenter correctement pour que, à la fin, l'estimation du scope 3, qui est l'engagement réglementaire, soit le plus abouti possible. Alors qu'avant, je ne sais pas comment on aurait fait, parce que chacun répond différemment avec ses mots, avec ses manières de faire. Donc, on va voir arriver dans des fonctions ou des processus auxquels, finalement, dépasse largement ce qu'on vient de discuter sur ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire le knowledge ou la relation client, voilà, avec ses bots spécialisés derrière tout ça. Donc, je pense que c'est un enjeu assez intéressant qu'on va voir dans les prochaines années.
Donc, ça fait plutôt envie, cet avenir proche, mais est-ce que ça n'a pas un coût aussi? Est-ce que c'est abordable pour toutes les entreprises?
Alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est que l'entraînement de ces modèles coûte très cher et très long, très coûteux. Donc, tout le monde ne pourra pas s'amuser à vouloir recréer ce modèle. Ça a peu d'intérêt, en fait. Donc, il est évident que ces modèles-là et d'autres modèles vont apparaître. Il n'y a aucun intérêt vraiment à recréer son modèle de langage, recréer derrière l'ensemble de ces éléments. Il est moins coûteux de fine-tuner ce qu'on appelle, c'est-à-dire de changer les paramètres d'un modèle existant. derrière. Et il y a des modèles, donc il y a ceux d'OpenAI, puis il y a d'autres modèles open source qui existent sur le marché, dans lesquels on peut jouer, fine-tuner, il y a ces technologies qui existent complètement, pour ensuite customiser en fonction de ces données. Et donc, il y a un paradoxe, effectivement, qui est à la fois que ces technologies-là, qui sont celles du cloud, en fait, à un moment donné, effectivement, sont très liées au cloud et la capacité technologique de pouvoir faire du calcul derrière. Et en même temps, elles n'ont jamais été aussi accessibles derrière, puisque aujourd'hui, utiliser dans un mode cloud entreprise un Azure, en fait, ChatGPT, ça n'a été jamais si peu coûteux, puisque je n'ai pas de frais d'accès à entraîner un modèle préexistant. Donc, tout le sujet va être, est-ce que j'ai le bon modèle pour mon usage derrière, et donc est-ce que j'ai suffisamment de choix pour choisir le modèle derrière, est-ce que je peux le customiser tel que j'aimerais le customiser, quel niveau de profondeur de customisation j'ai envie. Si je suis sur la conversation générique, je n'ai pas besoin de customiser, j'ai besoin de l'ancrer dans les données. Si par contre je suis sur un corpus de documents, de sémantique qui est particulier, sur lequel j'estime que mes mots sont particuliers, j'aurais peut-être envie de changer un peu les paramètres du modèle, parce que ça s'appelle du fine-tuning, c'est aussi faisable derrière.
Et là, on a parlé du coup, mais en termes de sécurité, est-ce qu'il y a des parties prises en termes de modèle? Justement, la sécurité peut jouer un rôle là-dedans?
Oui, complètement. Je pense qu'il y a une confusion sur l'OpenAI en tant que tel et le produit de ChatGPT, qui est un produit finalement consumer derrière, et ce qu'il fait, ses conditions générales de service, la façon dont il opère son service. Et puis, ce que nous, on va fournir au sein de Microsoft, qui est un environnement d'entreprise, c'est-à-dire que je vais déployer ce modèle, donc modèle générique, pour que l'entrée puisse plus l'utiliser, c'est-à-dire que les requêtes, les résultats du requête vont être complètement sécurisés, on est en environnement cloud, elles ne vont pas nourrir le modèle fondationnel, c'est-à-dire que ces requêtes ne vont pas être utilisées ensuite pour réentraîner un futur modèle. On est dans un environnement cloud classique, je mets mes données dans le lieu que je veux, par exemple, si je veux du GPT-4 Azure, je vais choisir la France ou la Suède, par exemple. Si je veux utiliser GPT-3, c'est Western Europe. Si je veux rester en Europe, donc on a des engagements, je choisis une zone Europe, et du coup, toutes les données et les métadonnées vont rester en Europe. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, on peut aujourd'hui utiliser ces modèles dans un environnement entreprise complètement compliant et d'ailleurs qui bénéficie de facto de toutes les zones de compliance du cloud. C'est-à-dire, j'ai un use case santé, par exemple. Je vais vouloir être ce qui s'appelle HDS, à titre d'exemple. HDS, c'est un niveau de certification de santé. Il se trouve que je peux utiliser GPT-4 en France. Ce data center et cette région est compliant HDS et donc par transitivité, en fait, le service GPT-4 Azure en France et HDS, donc je peux très bien l'utiliser de cette façon-là.
Là, on a parlé du coût pour l'entreprise et du coût pour la société en termes peut-être d'impact environnemental.
Ouais, alors c'est un des plus gros enjeux. Tout simplement, c'est que ça consomme de la ressource. C'est-à-dire que toute technologie numérique va consommer de la ressource. La question, c'est de bien choisir finalement pour le bon usage. Donc déjà, la première chose qu'on fait avec les partenaires et les clients, c'est quel modèle je vais utiliser, puisque tous les modèles ne se valent pas, certains sont plus performants que d'autres, mais plus performant, ça veut dire aussi plus consommateur. Donc plus coûteux en coût, mais coûteux en environnement, en impact environnemental. C'est une réalité, GPT-4 consomme plus que GPT-3. Mais est-ce que mon use case nécessite vraiment GPT-4? Pas forcément. Donc déjà, on va retrouver cette logique-là. C'est même vertueux quand on a un modèle à consommation, puisque finalement, on va faire attention au coût, donc on va faire attention à son impact indirect. Deuxième élément, toutes ces consommations-là dans le cadre d'Azure, c'est le cas de tous les services Microsoft, on a un tableau de bord sur son impact carbone, son impact en eau aussi, ne faut pas oublier l'eau qui devient un vrai sujet maintenant, son impact sur la biodiversité. Et donc, on a presque en temps réel, en tout cas, l'impact de la consommation des services Azure, dont Azure OpenAI, GPT-4 dans Azure, etc. Donc ça, c'est un mode de feedback pour dire ça commence à consommer beaucoup. Et nous, on a pris des engagements, évidemment, pour réduire petit à petit l'impact, puisqu'on est sur des data centers de plus en plus green, qui ont un certain nombre de normes pour réduire son impact carbone. Donc, on n'a pas changé non plus nos enjeux derrière, nos engagements plutôt de sustainability, qui sont en gros de réduire massivement en 2030 d'être complètement net zéro, hein, pas seulement carbone neutral, et puis aussi d'avoir effacé l'ensemble de la dette de Microsoft depuis sa naissance en 2050, quelle que soit la courbe d'adoption de nos produits et services. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, nativement, nos produits et services augmentent. Mais nous, on doit réduire encore plus, encore plus bas. Ce qui est d'ailleurs, on continue nos investissements, en particulier dans la capture de carbone, pour la petite histoire, ou d'ailleurs, c'est beaucoup de sujets d'IA, pour la petite, en termes de technologie au sein de Microsoft Research. Donc, on voit qu'effectivement, on a un risque d'effet rebond. C'est-à-dire, cette technologie devient accessible, on ne veut plus l'utiliser. Donc, il faut qu'on soit frugaux, dans la manière d'utiliser, au bon use case qui correspond derrière.
Alors, si on veut aller plus loin sur ces sujets, quelle livres, films, documentaires, conférences, tu recommanderais?
Alors, c'est difficile parce qu'en fait, ça foisonne. Ça foisonne de partout. Moi, je me nourris pas mal, mais je ne peux pas totalement recommander. Ça dépend du niveau d'excité. Mais des papiers de recherche qui sortent, qui sont assez accessibles, en fait, quand on regarde. Je disais, on vient de sortir un papier sur comment on fait oublier un modèle de langage Harry Potter. Voilà, donc ça, c'est parlant, c'est ce qu'ils ont essayé de faire pour ne pas retrouver effectivement éventuellement des éléments qui seraient de l'ordre d'Harry Potter. Donc, je me nourris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en ligne pour comprendre comment ça marche, un modèle de langage, sur LinkedIn, pour la partie moins technique, sur GitHub ou sur Microsoft Learning, voilà, qui sont gratuits. C'est des vidéos, donc ça se regarde très bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a pas mal de choses qui sont sur Coursera aussi derrière. Et après, mais c'est dans un autre domaine que je voudrais recommander un livre parce qu'il exprime assez bien, je pense, ce qui se passe aujourd'hui et surtout la façon de réagir, qui est un livre de Nassim Taleb qui s'appelle « Antifragile », qui est une notion que j'aime bien, donc et qui est à peu près ce qui se passe sur la manière pour l'entreprise de réagir face à des phénomènes imprévisibles. Nassim Taleb, c'est pas un data scientist, mais c'est un ancien trader qui est devenu un peu philosophe, qui a écrit des livres assez gros, qui a écrit un livre assez connu qui s'appelle « Le signe noir », qui était la capacité, en fait, ça compte moins de pouvoir prédire un événement imprévisible, puisqu'il est par construction imprévisible, que de pouvoir être capable d'être mesure d'avoir une organisation adaptée pour y répondre. Voilà. Et donc, antifragile, c'est sa notion du contraire de fragile. C'est-à-dire, fragile, c'est j'ai un objet, voilà, j'ai un verre, je le fais tomber, il casse. Antifragile, c'est je fais tomber l'objet, et en fait, il va se nourrir de ça, et au contraire, se renforcer. Ce qui n'est pas pareil que la résilience. Et cette notion-là, c'est un peu ça sur l'IA générative. C'est-à-dire, finalement, c'est un phénomène peut-être imprévisible qui arrivait, personne n'avait imaginé, même si en fait, voilà, il y a pas mal de travaux de recherche qui arrivaient. OpenAI, ça fait quelques années déjà que ça commence à arriver, mais tout le monde a découvert comme si personne ne se souvenait. La vraie question, c'est est-ce que mon entreprise est adaptée d'un point de vue organisation, COMEX, évolution des organisations pour réagir face à ça? Et c'est là où il y a, je pense, un énorme chantier organisationnel des entreprises sur comment je réagis par rapport à mes métiers, comment je m'empare de ça, comment j'ai une infrastructure IT ou autre pour changer mes processus derrière de manière assez rapide, adaptée, quitte à changer ensuite après, suivant ce qui va se passer. Personne ne peut prédire totalement comment ces modèles de langage vont apparaître, ce qui va se passer. Mais ma question, c'est comment mon entreprise, elle s'adapte. Voilà. Et Microsoft est un bon exemple où peut-être qu'on l'attendait moins sur ce sujet-là depuis quelques années, puis tout d'un coup, en fait, beaucoup de choses ont été faites. Et il y a un moment donné, un peu fondateur, où il y a 4 ans, Microsoft a investi 1 milliard dans OpenAI. Mais personne n'a vu passer. Et donc, ce pari-là, technologique, financier, c'est un peu ce que raconte Nassim Taleb. C'est je fais un pari sur quelque chose. On a plein d'autres modèles de recherche, je fais d'autres choses. Et il se trouve que celui-là porte ses fruits. C'est ça, en fait. C'est comme le trading. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur celui-là. On a mis des ressources, on a mis beaucoup de moyens. Et donc, c'est un bon exemple d'antifragilité pour moi. Donc, j'encourage un peu une réflexion au sein des entreprises. Par rapport à ce qui se passe, il y a la génératique. Qu'on ne peut pas totalement contrôler. Moi, je suis juré directeur d'une entreprise, CEO d'une entreprise. Comment je réagis par rapport à ça? Donc, le sujet est plutôt comment je m'adapte, comment mon organisation s'adapte, comment je me fais accompagner pour adapter mes métiers à ce qui est de toute façon un changement massif dans la façon d'opérer nos processus en interne.
Super intéressant. Moi, je vais recommander ton propre livre, Au secours, ma vie se digitalise. C'est le titre. Ouais. Et c'est un livre qui va justement faire le parallèle entre nouvelles technologies et cinéma. Très intéressant.
Oui, c'est un livre où on voit sur des vieux films, effectivement, que beaucoup de choses et technologies qu'on vit tous les jours, en fait, ces réalisateurs avaient capté les angoisses, les aspirations du moment. Et donc, quand on les regarde maintenant, je les encourage à les regarder, on note des choses. Alors, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Parfois, ils sont un peu datés. Mais finalement, ils expliquent assez bien des choses qui étaient à l'état de recherche à l'époque et finalement qu'on vit un peu au jour le jour derrière.
Xavier, merci beaucoup.
Merci, Caroline.
J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.